7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisseau et Queenie Tassel pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
Quand j'étais petit, je vivais en Afrique du Sud. J'apprenais à la fois le français et l'anglais. Il y avait une espèce d'ambiguïté dans ma tête entre les mots mère, comme un mère de village, la mère, la maternelle, ou la mère, l'océan, quoi. Et donc, j'ai fait une voix, je me souviens très bien de ce rêve. Je voyais cette espèce de personnage qui était en même temps un maire de ville, mais qui en même temps était aussi ma mère, qui m'engueulait, et qui flashait comme s'il était sous une espèce d'orage avec la foudre et la tempête, quoi.
Nova, pour que tu rêves encore.
Une mère qui est mère dans la mer. C'est un jeu de mots, un triple jeu de mots de rêve. Ça, il n'y a que les anglophones qui ont la chance de pouvoir faire ça. Queenie, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes anglophone?
Tout à fait.
Ne serait-ce que votre prénom?
Oui, tout à fait, Queenie. Effectivement.
Nova, pour que tu rêves encore.
Ça va faire du bien ce matin, le studio, un peu, on va aérer tout ça.
Oui, on va ouvrir les fenêtres.
Allez, on ouvre les fenêtres, on tire les rideaux, il n'y a plus de volets, plus rien. Chers auditeurs, faites pareil, réveillez-vous, regardez ce que vous avez autour de vous. On se charge du paysage ce matin, avec notre invité, qui va être là toute l'émission, Pierre Watt, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro parce qu'on vous entend
problème.
Un peu.
Voilà.
Pierre Watt, alors je dis on se charge du paysage, vous n'êtes pas paysagiste, disons-le, vous êtes historien de l'art.
Mais oui, personne n'est parfait.
Et spécialisé quand même dans les paysages.
Oui, tout à fait.
Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle, c'est un super titre, ça s'appelle Pérégrination, parce qu'on peut bouger dans le paysage.
Exactement.
Paysage entre nature et histoire. Ouais. C'est chez Azan, ça a été édité il y a 3 ans, maintenant en 2017. Mm-hmm. C'est écrit sur ma fiche.
Sans doute.
Et vous allez du coup nous parler de, vous allez nous peindre des paysages en direct ce matin.
Parfait.
À la base, les paysages d'ailleurs en peinture, c'était un peu le genre, le sous-genre, c'était pas très classe.
Pendant très longtemps, le paysage est considéré plutôt comme un genre mineur, puisqu'il y a l'idée qu'il y a une sorte de hiérarchie entre les gens, donc une hiérarchie entre les sujets en peinture, que tout en haut de la hiérarchie, le plus noble, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire, donc un sujet biblique, mythologique ou historique, et puis après on descend d'un cran, il y a le portrait, après on descend encore d'un cran, il y a ce qu'on appelle la scène de genre, donc ça c'est les scènes de vie des gens qui n'appartiennent pas à l'histoire, les scènes de vie des gens du peuple par exemple.
La laitière.
Voilà, exactement. Ensuite on descend encore d'un cran, on arrive au paysage, et puis tout en bas, on a la nature morte. Donc c'est considéré comme un genre qui n'est pas noble.
Donc nous, on fait l'avant-dernier, ce
Alors,
matin.
On fait l'avant-dernier, mais dans la période où c'est en train de devenir un genre dominant. C'est-à-dire fin 18e siècle, 19e siècle. Le 19e siècle, ça va être l'explosion du paysage. À la fin du 19e siècle, ça devient presque un genre dominant et triomphant.
Bon, on va triompher, on va triompher ce matin.
On met dans sa
matin.
Maison quand on a ouvert la fenêtre, justement.
Ouvrez vos fenêtres, chers auditeurs, c'est facile. On vous fait des paysages, mais sur mesure, hein, comme tous les vendredis.
Oui.
Cette émission est à votre service. Qu'est-ce qu'on fait, Queenie?
Alors, on a un canal qu'on connaît bien, qui s'appelle Instagram. Vous vous abonnez à La Radio Nova sur Instagram. Vous allez dans les stories Instagram. Et on vous a mis un petit rectangle blanc où on vous demande ce que vous voyez par votre fenêtre, ce que vous voyez devant vous. Et voilà,
vous nous dites. Il y a également une photo de nous en train de regarder par la fenêtre.
Oui,
c'est très méta.
C'est très beau. Voilà. Et sinon, on a bien évidemment le numéro de téléphone. Hein. Vous pouvez nous appeler 01 53 33 33 77 et nous décrire ce que vous voyez sous vos yeux.
Mais oui, ouvrez vos fenêtres et appelez-nous ce matin.
7h, 9h, Marie Bonisseau et Queenie Tassel.
Il est 7h13, nous venons de recevoir un message des auditeurs, Queenie, sur Instagram.
C'est Anaïs Falgou qui nous dit qu'elle a ouvert la fenêtre et qu'elle voit le monde à l'envers.
Ah, Anaïs Falgou voit le monde à l'envers ce matin. Je me retourne vers notre invité, spécialiste de ce qu'on voit par la fenêtre, des paysages, Pierre Watt, historien de l'art. Mmh. On a une auditrice qui voit, je ne sais pas si c'est elle qui est à l'envers par rapport à sa fenêtre ou sa fenêtre qui est à l'envers, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut lui peindre comme paysage?
Mais d'abord, elle nous peint un paysage, puisque c'est exactement ça un paysage. C'est quelqu'un qui dit « je vois ». Déjà, parce qu'on croit que le paysage, c'est la nature. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire que la nature, mais enfin, c'est la nature et que le paysage, il continue à exister quand je lui tourne le dos. Alors qu'en fait, le paysage, il y a un philosophe du 19e siècle qui s'appelait Schelling qui dit « le paysage n'existe que dans l'œil du spectateur ». Donc en fait, le paysage, c'est ce que je vois et c'est la manière dont je le vois. Moi, je dis que le paysage, c'est de la nature éprouvée par l'homme. Donc si cette auditrice voit le monde à l'envers... Je ne sais pas si c'est elle qui est à l'envers ou le monde qui est à l'envers, mais en tout cas, c'est sa perception. Donc en fait, ce qu'elle nous raconte, c'est exactement ça pour moi, un paysage.
Ça y est, Anaïs est peintre de paysage. Elle est paysagiste, là. Nickel.
Validé.
Ça veut dire qu'en fait, dans les peintures de paysage, on ne voit pas l'homme, mais ça parle de l'homme complètement.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait la peinture de paysage, les trois quarts du temps, il n'y a pas d'homme dedans, mais l'homme est absent physiquement et il est présent absolument en permanence. C'est une peinture profondément de la subjectivité. Enfin, en tout cas dans la période contemporaine, c'est vraiment ça. La peinture de paysage, c'est une forme d'autoportrait, c'est une forme d'autobiographie.
C'est quoi la différence avec un panorama, du coup, qui essaye, alors, lui, de tout peindre?
Le panorama, souvent, ça dérive du paysage. Le terme panorama, comme vous dites, tout peindre, le terme panorama, en grec, ça veut dire tout voir. C'est un des grands trucs du 19e siècle. Hein, c'est Balzac qui disait que le 19e siècle, c'était le siècle des spectacles en rama, panorama, diorama, circorama.
C'était quoi, diorama?
Mais pareil, c'est des dispositifs optiques. Alors, le panorama, en général, le 19e siècle, c'est un dispositif optique à 360 degrés. D'abord pictural, ensuite photographique, pour lequel on construisait des bâtiments spéciaux, des rotondes, par exemple. Et donc, on construisait un bâtiment rond. Et dans ce bâtiment rond, on installait un tableau à 360 degrés. Et souvent, le spectateur accédait au tableau en rentrant, en descendant d'un sous-sol et en ressortant au milieu. Et autour de lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un paysage, une scène de bataille, une scène de voyage.
Mais c'était l'ancêtre de la VR, en fait.
Et alors, c'est absolument l'ancêtre, vous parliez de jeux vidéo tout à l'heure, c'est l'ancêtre absolument du virtuel, c'est l'ancêtre de la 3D ou de la 4D ou de la réalité augmentée, c'est exactement ça, c'est-à-dire, voilà une peinture qui devient un spectacle dont vous êtes le héros, vous allez voir des choses extraordinaires et terribles, et en plus, il ne va rien vous arriver, en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on joue à se faire des frissons, exactement comme dans la réalité augmentée, mais on sait qu'il ne va rien nous arriver. Ça, c'est vraiment c'est l'espèce de transformation du paysage en spectacle. Et ça dit, là encore, que ce qu'on voit, c'est notre champ d'action, notre champ de bataille, notre champ de projection. C'est la même chose.
On a Will au téléphone. Bonjour, Will.
Bonjour, Marie.
Merci de nous appeler si tôt.
Bah oui, écoutez, je vais partager avec vous ce moment.
Oui, il y a une machine.
Vous voyez,
il y a une machine à écrire. Quoi?
J'ouvre les fenêtres de mon bureau, voilà.
Ah, c'est du direct.
Je contemple le... Depuis le balcon, en face de moi se trouve l'opéra de Nancy.
Ah.
Voilà.
Alors notre invité spécialiste en paysage, Pierre Vatt, vient de faire avec la bouche fermée, donc on n'a pas entendu. Pierre Vatt, ça vous inspire quoi? Qu'est-ce qu'on peut peindre comme paysage à Will, qui est en train de contempler un opéra à Nancy? C'est précis, hein. On vous fait bosser ce matin.
Ah non, mais c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme paysage? Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est pas tellement le fait que ce soit un opéra, ça pourrait être une maison, n'importe quoi, ouais. Ouverte, fermée. L'idée, c'est plutôt le fait que vous voyez. Donc, c'est au boulot et vous voyez ça tous les jours, en fait. C'est ce que vous voyez de votre fenêtre tous les jours quand vous êtes au boulot.
Ouais, tout à fait.
Voilà, bah exactement. Donc, en fait, si vous appeliez pas Will, mais Claude, par exemple, Claude Monet, je pense que vous auriez fini par peindre cet opéra, d'une certaine manière. Parce qu'en fait, Claude Monet, il disait qu'il ne pouvait peindre vraiment un paysage que s'il ne le connaissait vraiment. Et c'est-à-dire que c'était un lieu où il avait besoin de venir, revenir, revenir encore. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'il aurait peint, c'est pas tellement l'opéra, c'est sa relation à l'opéra. Peut-être que l'opéra de Nancy serait devenu un petit peu comme la cathédrale de Rouen, dont il a fait plusieurs versions, en s'installant devant, en allant à plusieurs fenêtres, je sais pas s'il y a plusieurs fenêtres dans votre bureau, et en le regardant, regardant, regardant. En fait, il faut des années pour ça. Donc finalement, devenir peintre de paysage, c'est regarder ce qui est devant vous, auquel vous ne prêtiez pas attention jusqu'au moment où on vous demande aujourd'hui d'ouvrir vos fenêtres et de regarder ce qu'il y a devant, et se dire, tiens, ce truc banal auquel je fais plus attention, que je ne regarde plus, je me mets de nouveau à le regarder. Et plus je le regarde, plus je deviens peintre, plus ce motif devient intéressant pour moi. Voilà.
Will, et vous êtes attaché à cette vue de l'opéra que vous avez tous les jours, parce que vous êtes au travail là déjà.
Oui, je suis au travail.
C'est un truc que vous voyez vraiment tous les jours en arrivant au travail?
Ouais, depuis mon bureau avec une fenêtre qui donne sur la rue. En fait, c'est pas la façade de l'opéra, c'est le côté, c'est une rue qui est de côté.
C'est donc
tous les jours, il y a des gens qui avec des camions qui déchargent des plateaux pour le décor, tout ça c'est l'entrée des
coulisses, voilà. Des professionnels de l'opéra.
Voilà.
C'est une vue à laquelle vous êtes attaché.
Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, ouais. Oui, de là à la peindre un jour, je ne sais pas si j'aurai ce talent.
Ah
mais,
vous avez appelé, maintenant il faut devenir peintre de paysage. Désolé Will, mais c'était sûr que ça allait vous tomber dessus. Pierre Vatt, Monet, il habitait devant la cathédrale de Rouen?
Non, alors Monet, il habitait pas là, il habitait... selon les périodes, soit du côté de Paris, soit du côté de Giverny, mais il était originaire de Normandie. Et en fait, quand il va à Rouen, il va louer une espèce d'appartement avec des chambres juste en face de la cathédrale, avec plusieurs fenêtres. Et en fait, à chaque fenêtre, il va disposer un châssis, il va disposer une toile, et il va passer comme ça un temps extrêmement long à venir et revenir, à changer les points de vue. Ce qui fait qu'en fait, sur un seul bâtiment, alors certes c'est une cathédrale, mais il a fait ça avec des choses beaucoup plus banales qu'une cathédrale. Le bâtiment n'a pas besoin d'être beau, puisque c'est la manière dont on le regarde qui est intéressante. Il va introduire des variations de lumière, des variations de temporalité, des variations exactement comme quand il fait une chose qui est très très célèbre, quand il fait toute une série autour de meules de foin qu'il peint à Giverny, meules de foin l'été, meules de foin l'hiver, meules de foin en début de journée, meules de foin en fin de journée. C'est un même motif, meules de foin, avant Monet, personne ne regarde les meules de foin, tout le monde s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt particulier, ça ne raconte aucune histoire, c'est ce fameux genre qui n'est pas tellement valorisé, le paysage, et la manière dont il va le regarder et dont il va nous apprendre, donc nous, à regarder cette chose qui fait qu'on s'aperçoit qu'en fait, un même motif, qu'il soit extraordinaire ou banal, vu à différents moments de la journée, à différents moments de la vie, sous différents éclairages, ça devient quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'au début, on est dans son bureau et on se dit « bon, ben, y a des gens qui déplacent, qui sortent, qui vident des choses dans des camions en face de moi, c'est banal, j'y fais pas attention, c'est le quotidien, c'est le boulot ». Et si on commence à s'arrêter, si on commence à faire juste ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de dire « tiens, au fait, qu'est-ce que je vois ?» Voilà, c'est le début, c'est ça, qu'est-ce que je vois.
Bon, Will, bon courage avec votre opéra. Vous avez compris, un chevalet, de la peinture, c'est à l'huile, hein, c'est ça. La peinture à l'huile, et puis...
À l'époque, à l'huile.
On attend vos tableaux, Will.
Ouais, je vous enverrai sur Insta mes plus belles croûtes.
Si, bah oui, super. oui, on est en 2020.
On a reçu un petit message.
Bah oui, trêve de bêtises, il faut qu'on bosse là.
Alors c'est Alex qui nous dit ça dans les stories Instagram de la Radio Nova. Il a ouvert ses volets et il voit la mer qui se lève et l'appelle pour glisser le long de ses ondes.
On a un petit surfeur. Auditeur balnéaire, un surfeur qui vient de nous écrire. Alors je me tourne vers notre spécialiste des paysages dans l'art, Pierre Vatte. Il y a énormément de peintures de paysages avec la mer.
Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de peintures de paysages avec la mer. Et puis alors, comme on parle de Brexit aujourd'hui, il y en a un qui s'impose, hein, c'est Turner, voilà,
un
peintre
anglais.
Londonien, lui aussi, et qui, à mon avis, quand il ouvrait ses volets, alors peut-être pas à Londres, mais dans plusieurs endroits où il était, voyait la mer. Être peintre anglais et être peintre de marine, c'est logique, hein, on est sur une île. En plus, être peintre anglais pour Turner, qui était une sorte de touriste professionnel, qui a voyagé... Turner, il passait son temps à voyager. Il a fait plus de 20 voyages en Grande-Bretagne, et il a fait, je crois, 24 voyages sur le continent. Alors, à l'époque... c'était bien avant le Brexit, mais c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui pour voyager. Ça voulait dire partir sur le continent, ça voulait dire traverser le Channel, traverser la Manche, à ses risques et périls, arriver en France, du côté de Calais, traverser la France, aller vers Grenoble, traverser les Alpes, aller en Italie, rester plusieurs mois, ou aller en Allemagne, ou aller en Belgique.
Et à chaque fois, c'est en calèche.
À chaque fois, c'est en calèche. Parfois, il y a des accidents. Dans les Alpes, quelquefois, la calèche se retourne. Et il y a une lettre de lui où il se dit « Heureusement que je loue l'invention de cet Écossais, toujours le Brexit, monsieur MacAdam, l'inventeur du MacAdam, qui fait que ça aurait pu être...
Ouais, » Je ne savais pas.
Voilà. Et quand il traverse la Manche, parfois, c'est extrêmement dangereux. Et notamment, il y a une fois où il a fait un tableau qui s'appelle « Tempête de neige en mer » et qui est un paysage autobiographique, là encore une fois. Puisqu'il prétend qu'en fait, une fois où il a traversé la Manche, en hiver, il y a eu une tempête extrêmement violente, qu'ils ont cru qu'ils allaient se noyer, et qu'est-ce qu'a fait Turner ? Il a demandé aux marins de l'enchaîner au mât du navire pour pouvoir vivre la tempête de l'intérieur. C'est-à-dire de faire exactement comme Ulysse, dans la mythologie, Ulysse chez Homère, qui s'enchaîne pour résister dans la mer au chant des sirènes. Et il se dit qu'il va mourir, et il se dit que s'il ne meurt pas, il faudra qu'il peigne cela, c'est-à-dire que la peinture de paysage, c'est un tableau qu'il ramène pratiquement du royaume des morts. Tableau complètement subjectif. Quand je dis que le paysage, c'était la nature éprouvée, c'est exactement ça. Donc c'était pas un surfeur, mais c'est
mais
à peu près...
Mais
globalement, c'est la même chose.
Turner, il a plein d'histoires comme ça sur comment il a peint ses tableaux. C'est peut-être faux, on sait pas, en fait.
Oui, c'est une sorte de... Oui, enchaîné au mât comme Ulysse... C'est tellement beau que c'est certainement vrai, mais c'est pas évident. Oui, il y a un tableau célébrissime de Turner qui s'appelle « Pluie, vapeur et vitesse ». Et la légende prétend que Turner, prenant ce nouveau moyen de transport moderne, a provoqué une espèce de panique dans le train parce qu'il avait absolument insisté pour mettre la tête à l'extérieur du wagon pendant que ça roulait à pleine vitesse, train à charbon, donc a priori il valait mieux pas mettre la tête à l'extérieur pour pas se prendre ce qu'on appelle une escarbille, un petit peu de charbon brûlant dans l'œil, et pour pouvoir vivre ce voyage physiquement. C'est une des grandes obsessions de Turner, ça, c'est vraiment cette question de la nature éprouvée. Qu'est-ce qui fonde mon tableau? Qu'est-ce qui fait que je fais un paysage? Il faut d'abord que je le vive et que je le vive corporellement.
Et donc là, est-ce qu'on voit la peur dans son tableau de tempête de neige? Qu'est-ce qu'on dans ce tableau, qu'est-ce que vous, si vous connaissiez pas, si vous ne connaissiez pas cette histoire, ce contexte, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Qu'est-ce qu'il raconte de la mer?
La manière dont on le voit, c'est précisément parce que dans un tableau de Turner, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on voit mal. Ce qu'on voit, c'est qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'on est aveuglé. Ce qu'on voit, c'est que la tempête ou le naufrage ou l'eau ou tous les éléments naturels, on ne les voit pas de l'extérieur, on les voit de l'intérieur. Très souvent, dans les peintures de marine de Turner, on a le sentiment qu'on est une goutte d'eau, que notre regard, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et c'est pas du tout une peinture morbide, hein. Pour lui, c'est exactement le contraire. On fait corps avec l'univers, c'est une peinture métaphysique, on fait corps avec l'univers parce que on est à l'intérieur. C'est une expérience de faire corps avec le monde à travers des catastrophes qui sont transformés en quelque chose de sublime et de magnifique.
Bon, notre petit auditeur va donc sortez, Alex, voilà. Vous qui voyez la mer devant vous, sortez, puis allez vous baigner.
Attachez-vous au surf.
Exactement, mais on est toujours attaché. Normalement, on s'attache au surf. Oui.
Bon, bah voilà.
On va perdre un auditeur. Priez pour qu'il y ait une tempête, ça fera un chef-d'œuvre.
Nova.
Pour que tu dream encore.
Oh, ça c'est Brexit.
Alors là, on a plusieurs auditeurs qui sont en voiture sur Instagram, ils nous disent ça. Donc il y a Gabriel qui nous dit qu'il voit le bal des voitures sur la 13. Narbi qui voit le 11e arrondissement défiler par le pare-brise de son camion. Il est dans un camion.
Il fait 33 tonnes.
Il y a des phares, il y a plein de choses. Des phares de voitures, mais Benito nous dit ça. Et Gambit est sur l'autoroute. Donc il y a beaucoup de gens sur la route.
Il y a même Xfil qui nous dit qu'il est dans une Clio nommée Clito. Bref, on a que des automobilistes ce matin. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas peindre en voiture, Pierre Vatte.
Si.
On peut tout faire.
Si, il y a des tableaux qui ont été faits en voiture. Il y a des dessins de voiture. Je crois qu'il y a un dessin de Henri Matisse en voiture. Et alors, c'est plus facile de peindre ou de dessiner dans le train. C'est moins dangereux. On peut peindre, dessiner, faire des photographies dans l'avion, par exemple. Mais aussi, c'est une vraie question. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que vous nous dites qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça. C'est normal. C'est l'heure auquel les gens vont au boulot ou commencent leur journée. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi l'idée que le paysage, ça forme une sorte de paysage commun. Un paysage qui, autour duquel un certain nombre de gens peuvent se reconnaître. Hein, ce que je vois de la voiture, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi cette idée que le rapport au paysage, c'est un rapport à la question du déplacement. C'est pas simplement ce que je vois de la fenêtre, c'est ce que je vois d'une fenêtre, qui est la fenêtre de la voiture, qui est la fenêtre mouvante. Ça, c'est vraiment une expérience du paysage. Hein. Le rapport au paysage, c'est un rapport de parcourabilité. Le terme n'est pas très joli, mais c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, je me projette dans un espace, si on prend la peinture, qui est sur une toile, qui fait un mètre carré, qui n'est pas tellement grand, mais en fait, ma projection, c'est comme une sorte de déplacement. Beaucoup de peintres de paysages, au XIXe siècle, théorisent ça. Il y en a un qui n'est pas très très connu aujourd'hui, qui s'appelle Pierre-Henri de Valenciennes, qui dit que pour être un bon peintre de paysages, il faut voyager. Et alors lui, il ne conseille pas du tout la voiture. Il dit justement qu'il faut éviter de voyager en voiture, alors en voiture à cheval, parce qu'en gros, il ne dit pas qu'on voyagerait comme une valise, mais pas loin. Parce qu'il dit, le problème, c'est que si vous voyagez en voiture, la fenêtre va cadrer le paysage. Il vaudrait mieux voyager à cheval, mais le mieux, c'est de voyager à pied. Alors, je ne vais pas conseiller à tous vos auditeurs de descendre leur voiture, de continuer à pied.
Mais si, sortez des Clio, là. Si,
ceux qui sont sur le périph,
c'est
la voiture sur le bas-côté, et continuer à pied tout en regardant. Parce que pour lui, la meilleure manière de devenir un peintre de paysage, c'est la marche à pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le déplacement, et puis ça veut dire la chose qu'on éprouve toujours corporellement. Et ça veut dire aussi cette espèce de rapport entre le corps et le sol. Marcher dans le paysage, c'est marcher sur quelque chose. Donc, je pense qu'on est au cœur, là.
Mais il y a un paradoxe, parce que quand même, dans le tableau final, c'est un tableau fixe.
Ah, oui.
Et du coup, ils ont marché dans c'est comme s'ils avaient marché dans le tableau pour le peindre, dans ce paysage. Mais ça va être une vision à un moment
T. Oui, mais ça veut dire que... Oui, c'est une vision à un instant T, mais cette vision à cet instant T, elle pourrait être produite correctement que par quelqu'un
qui ne s'est pas
contenté d'avoir une... C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire regarder? Quand vous dites ouvrez les fenêtres, par exemple, dans votre émission, c'est parfait, puisque c'est pas regarder par la fenêtre, c'est ouvrez les fenêtres. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un rapport qui soit pas... Le paysage, c'est pas une image. C'est pas une image figée, c'est une image vivante, en mouvement, soit parce que je me déplace, soit parce que il se déplace, le paysage, soit les deux. Donc en fait, c'est une affaire de rencontre.
Et on vient de recevoir un message de quelqu'un
De Julie.
Elle est chez elle, Julie.
Elle est chez elle, elle voit la cour de son immeuble avec des plantes.
Alors je me tourne même vers notre invité, Pierre Vatt. Vous êtes historien de l'art, vous êtes spécialiste des paysages. Et cette cour que voit Julie avec des plantes, ça évoque plein de tableaux.
Oui, ça m'évoque la première chose que ça m'évoque un tableau anglais. Ça m'évoque un tableau d'un très grand artiste anglais qui s'appelait Lucian Freud. Ah. Et qui était le petit-fils de Sigmund Freud.
Ah bah oui, j'allais dire, oui. Il n'y a pas un nom qui s'appelle Freud.
Et qui était aussi un ami du grand peintre anglais Francis Bacon. Et il a peint probablement ce qu'il voyait de sa fenêtre, c'est-à-dire une cour d'immeubles, comme il y en a tellement à Londres, le côté un peu sordide, un peu Dickens, comme ça, avec les briques. Et puis un petit bout de nature qui apparaît, hein, comme s'il y avait un petit bout de campagne qui venait surgir. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que... Donc on voit que le paysage, c'est pas qu'une histoire d'arbres, de fleurs, d'animaux. C'est aussi ce mélange entre la partie construite et la partie nature. Ça, c'est une des grandes affaires du paysage, ça s'appelle la ruine. Et il y a un historien qui disait que la qualité de la ruine, c'est son ambiguïté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un fait de nature ou un fait de culture. Une bonne ruine, si vous voulez, une bonne ruine, vous n'arrivez pas à savoir, finalement, si c'est de la végétation qui a l'air d'être... construite, ou au contraire une construction qui a l'air de devenir de la végétation. Ça, c'est une chose qu'on trouve énormément dans la peinture 18e, 19e siècle, cette espèce de transformation. Donc, dans le fond, la ruine, c'est la transformation de l'histoire en paysage. Vous voyez, c'est dans l'histoire, à un moment donné, la nature finit toujours par reprendre le dessus. Donc il y a des très très belles comme ça figurations de paysages dans lesquelles on voit des ruines, une église en ruine par exemple, et vous voyez comment c'est peint. Donc la ruine est à moitié effondrée, et puis en haut de la ruine, là où il n'y a plus de toit par exemple, dans l'église, vous avez des sapins qui poussent, vous avez du lierre qui gagne. Donc c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose comme une espèce de victoire de la nature.
Mais c'est ça, l'idée c'est de parler de l'histoire des hommes qui tombent en ruine et de la nature qui restera toujours là et qui gagne à la fin.
En fait, c'est la question du vivant, dans le fond. C'est la question du vivant, enfin, c'est ce dont on a parlé par exemple hier soir où j'étais à la Nuit des Idées à l'INHA, qui était autour de la question du vivant, où j'avais un débat avec l'artiste Fabrice Hibert, donc à l'Institut National d'Histoire de l'Art. C'est exactement ça, c'est de montrer comment à travers la question du paysage, ce qu'on évoque, c'est pas une catégorie esthétique, c'est pas la joliesse de la nature, c'est l'énergie créatrice sans cesse à l'œuvre, qui à la fin en effet gagne.
Mais il y a un côté très mélancolique quand même dans ces tableaux de ruines, c'est aussi quand même la mort un peu.
Et ben, pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la mort. C'est-à-dire que c'est l'ambivalence en permanence. Il y a un poème d'un Américain qui s'appelait Carl Sandburg, qu'il a écrit vers 1918, et qui est un poème qui évoque la guerre. Et c'est un poème avec une personnification, c'est-à-dire c'est une entité qui parle. Il s'appelle Grass. On est toujours dans le Brexit. Hein. Il s'appelle Grass, c'est-à-dire que c'est l'herbe. Grass, c'est herbe. Et c'est l'herbe qui parle. Et elle évoque les champs de bataille qui se transforment progressivement en paysage. Et elle s'adresse aux êtres humains en disant « Enterrez-les tous à Waterloo, enterrez-les tous à Gettysburg, mais laissez-moi travailler, je suis l'herbe, je recouvre tout. » C'est une sorte de refrain. « Laissez-moi travailler, je suis l'herbe, je recouvre tout. » Donc il y a une grande mélancolie, c'est la mélancolie du deuil. Le paysage, c'est ce qui vient après l'histoire. C'est les tombes anglaises dans lesquelles il y a du gazon qui vient pousser sur les tombes. C'est terrible, et en même temps, c'est merveilleux.
En même temps, c'est la vie.
C'est la vie. Donc, heureusement que l'herbe recouvre tout. Tant que l'herbe pousse, il y a de la vie.
Bon, Julie, attention à vos plantes dans la cour, là. Ça va finir par vous manger, hein. Merci beaucoup, Pierre Vatt, pour cette... C'était beau et poétique. On reçoit des messages de partout ce matin, puisqu'on est sur Instagram, dans les stories Instagram du compte La Radio Nova. Oui. On vous demande de nous dire ce qu'il y a devant vos yeux, devant votre fenêtre.
Et là, on a rien. Quoi ? Cabamo voit rien, c'est trop tôt. Ah. GDB nous avait envoyé tout à l'heure la nuit. Mélanie dit la nuit noire aussi. Le soleil n'est pas levé partout, visiblement.
Donc les gens ne voient rien.
Ils ne voient rien.
Parce qu'il fait nuit noire. Alors, voilà. Pierre Vatt, vous qui êtes spécialiste des paysages dans l'art, il y a des peintres qui ont peint rien, enfin la nuit noire.
Il y a des peintres qui n'ont pas rien, il y en a beaucoup.
Ah ouais.
Puisqu'on parlait de Turner tout à l'heure, il y avait un critique anglais qui s'appelait Hazlitt qui disait que les peintures de Turner, c'était des peintures du rien, mais très ressemblantes.
Donc, mais il ne l'aimait pas trop aussi.
C'est ambigu.
C'est des blagues de critique d'art, ça.
Ouais. Et sinon, si ces gens qui regardent à travers leurs fenêtres ont vraiment ouvert leurs volets et que c'est la nuit, et qu'ils prennent le temps de regarder vraiment, ils verront plein de choses. Et c'est ce qu'a fait un très grand peintre romantique allemand qui s'appelait Caspar David Friedrich, qui a énormément peint la nuit. hein, qui a fait de la nuit un véritable motif. Il y a eu une exposition il n'y a pas tellement longtemps au Centre Pompidou-Metz, je crois, qui s'appelait Peindre la nuit. C'est un sujet absolument merveilleux, au contraire. Parce que la nuit, précisément, on se met à voir d'autres choses. Donc chez lui, ça a été un énorme sujet, parce que la nuit, c'est un moment où la perception du temps et la perception de l'espace est complètement modifiée. Vous le savez, puisque vous faites une matinale qui est extrêmement tôt, donc on voit, c'est le moment où les autres dorment, et donc finalement, au contraire, c'est un moment où l'attention, la sensibilité au monde est complètement aiguisée. Donc lui, il a fait beaucoup de paysages nocturnes. On parlait de la question de la ruine, ça va aussi avec la question de la ruine et aussi avec la question de la mélancolie. Mais c'est pas simplement une question de mélancolie, c'est une manière de penser que la nuit, c'est le lieu où dans le paysage, tout à coup, les frontières tendent à s'abolir. Hein, la question du paysage, c'est aussi ça. Pas de différence entre le jour et la nuit, pas de différence, la nuit, c'est le moment du rêve et du sommeil. Est-ce que je dors, est-ce que je rêve, est-ce que je suis éveillé, c'est le moment de l'ambiguïté. Donc vous voyez, à partir d'une chose qui est extrêmement simple, qui est la sensation de ne pas voir, je ne vois rien, mais donc peindre le rien, ça veut vraiment dire quelque chose, on se met à voir autre chose.
Autre.
Donc le paysage, c'est une expérience d'une forme d'ouverture du monde.
Mais du coup, il
le
faut...
Le lever de soleil.
Pardon d'être trivial, mais est-ce qu'il faut la lune quand même pour éclairer un tout petit peu ces contours flous et noirs? Non, il n'y a même pas besoin de lumière.
Il faut la lune, il faut des étoiles. Il y a un certain Van Gogh qui a fait Une nuit étoilée, qui est un des plus beaux tableaux du monde, qui est comme une espèce d'expérience psychédélique, mais qui est en fait pas du tout une expérience psychédélique, c'est une expérience d'hyperesthésie, c'est-à-dire d'une hypersensibilité au monde. Parce qu'en fait, la nuit, et puis de toute façon, aujourd'hui, en Occident, la nuit complètement noire...
Elle n'existe plus.
Ça n'existe plus. Donc, c'est le bon côté de la mauvaise nouvelle, c'est que de toute façon, même dans la nuit, on voit quelque chose.
Bon, vous avez du boulot, les auditeurs, arrêtez de nous dire que vous ne voyez rien, vous voyez autre. Alors, revenons à notre histoire de paysage. Ce matin, nous sommes avec Pierre Vatt, spécialisé dans les peintures de paysage, historien de l'art, qui nous raconte que vraiment, on peut tout peindre, en fait. Tout à l'heure, il y avait un auditeur qui nous disait, non, moi, je ne vois rien, je ne peux rien peindre, c'est la nuit. Et bien, si, on peut peindre la nuit. Là, on a un autre auditeur qui nous envoie quelque chose de quand même plus facile à peindre.
Beaucoup plus facile, c'est Naboo. Oh, quoique, il voit la montagne. Je ne sais pas si c'est si facile à peindre que ça,
Pierre Vatt.
La neige.
Alors, ça a été une des grandes affaires de la peinture du 19e siècle. C'est que la peinture de paysage, c'était aussi ce qu'on appelait l'invention de nouveaux paysages. L'invention au sens archéologique, où on parle d'invention, la découverte. C'est-à-dire qu'au fin du 18e siècle, 19e siècle, on se met à voyager différemment, à voyager autrement, à voyager mieux, parce qu'on a des nouveaux moyens de transport. Et donc, on se met à découvrir des régions inconnues, et notamment des régions qui sont réputées infranchissables, inviolables, inaccessibles et dangereuses. Donc, la première ascension du Mont Blanc, par exemple, c'est au 19e siècle. C'est un homme qui s'appelle Saussure qui fait ça. Et par exemple, toujours nos affaires anglaises, on se met à découvrir l'Écosse et la partie escarpée de l'Écosse. Et donc ça va développer un imaginaire de la montagne tout à fait extraordinaire. La montagne va devenir un sujet de prédilection parce que ça permet d'apporter aux spectateurs de la nouveauté et de la nouveauté étonnante. Et en particulier, il y a une théorie esthétique qui se développe au XVIIIe siècle et qui est assez aisé à comprendre et tout à fait formidable. C'est ce qu'on appelle la théorie du sublime. Enfin, c'est une chose très ancienne mais qui est réactualisée au XVIIIe siècle par un Irlandais qui s'appelle Edmund Burke et qui dit que l'effet sublime, c'est un effet produit par un spectacle, éventuellement naturel, qui est un effet, dit-il, d'horreur délicieuse. L'horreur délicieuse, c'est cet effet, c'est face à un spectacle. C'est un spectacle potentiellement mortel dont je sais que je ne vais pas mourir. Je regarde une chose, cette chose est terrible, je pourrais en mourir, je pourrais tomber dans une faille de la montagne, mais, dit-il, face à cela, je jouis de la préservation de moi, la jouissance de la préservation de soi. Et ça, c'est si on va voir un film d'horreur dans une version 3D, globalement, si on aime ça, moi je déteste parce que je suis premier degré, mais globalement, vous savez que la grosse araignée ne va pas sortir de l'écran pour venir vous dévorer. Donc ça, c'est l'effet sublime. Vous voyez, c'est-à-dire jouer à se faire peur. Et face à la montagne, on joue terriblement à se faire peur. On a cette espèce d'effet de frisson qui fait que tout à coup, vous êtes devant un spectacle sublime, extraordinaire, et vous vous dites, face à ce spectacle, si vous étiez un peintre romantique, face à ce spectacle, vous devriez vous exclamer quelque chose du genre, je ne suis rien, Dieu est tout.
Si on est un peu fragile,
Dieu et la montagne.
Oui.
Bon, il était beau, votre paysage, il faisait un peu peur, mais il était beau.
Ben c'est ça, c'est beau parce qu'il fait peur.
On est au 5e étage là, de notre immeuble de la Radio Nova.
Voilà, il faut voir ça d'un endroit exactement où vous ne risquez rien.
Bah là, on voit le périph' de haut, mais c'est sublime, je sais que je ne vais pas tomber sur le camion qui passe.
C'est exactement ça.
revenons à nos moutons, si vous le voulez bien, nos sheep anglais. J'en sais rien, on va voir ce qui va se passer, puisqu'on parle toujours de paysages. Ce matin, on vous peint des chefs-d'œuvre, on regarde par vos fenêtres, chers auditeurs. Et là, on vient de recevoir un message sur Instagram. On voit pas grand-chose, là, par les fenêtres de notre auditeur.
Non, c'est OAJ, son nom. Il voit le brouillard sur les vignes. Donc, effectivement, il y voit que dalle, je pense.
Il voit rien. Il devine le vin de loin, à travers la brume. Pierre Vade, vous qui êtes spécialisé dans les paysages, dans la peinture, ce brouillard, ça peut faire des beaux tableaux flous.
Mais exactement, ça fait des beaux tableaux déjà, le brouillard. Et peut-être même que si on trouve que le brouillard c'est beau aujourd'hui, quand on l'a devant sa fenêtre, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tableaux qui ont peint le brouillard. Hein,
Vous pensez que culturellement on nous a appris
le
brouillard?
Ah oui, je pense que la peinture nous apprend à regarder la nature. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va. Et on a eu la météo tout à l'heure, et en fait on se rend compte que peindre le paysage, on croit que c'est peindre l'espace, mais en fait c'est peindre le temps. Et le temps au sens... Mais les Anglais, par exemple, ils disent... Ils ont deux mots, oui, time et weather. C'est peindre le temps chronologique et peindre le temps météorologique. Et la question du brouillard, elle est extrêmement présente dans la peinture, exactement comme la nuit, exactement comme la neige, par exemple, parce que ce sont des instances naturelles et qui sont des instances d'effacement. Vous parlez du flou. C'est-à-dire des instances qui font qu'on voit qu'on voit mal. Ce qui fait qu'au lieu de voir la vigne, on voit le brouillard. On voit ce qui nous empêche de voir. Donc c'est une expérience de la vision, c'est exactement ça. Il y a un tableau célébrissime de ce peintre dont je parlais tout à l'heure, Caspar David Friedrich, qui s'appelle Voyageur. Enfin, le terme allemand, c'est Wanderer. Wanderer au-dessus de la mer de nuages, comme une sorte de mer de brouillard ou de mer de nuages.
Alors c'est un tableau célébrissime, ça. Alors, pour ceux qui ne voient pas
ce tableau,
que c'est, ils l'ont déjà croisé.
Ce tableau, je peux le décrire. Donc l'image du Wanderer, en allemand, le Wanderer, c'est ça veut dire se promener, ça veut dire errer, ça veut dire pérégriner. C'est quelqu'un qui marche sans but précis. Hein, c'est la vraie expérience de la déambulation dans le paysage. Et il est, on le voit, il est de dos, en haut d'une montagne, et devant lui s'étend comme un sol, sauf que ce sol, il est fait de nuages, une mer de nuages. Et c'est vraiment le tableau romantique par excellence sur la relation au paysage. C'est-à-dire qu'on a un homme qui est arrivé en haut d'une montagne, on a parlé de la montagne, il est dans une position instable, de déséquilibre, c'est-à-dire que le rapport au monde finalement est un rapport dans lequel on a perdu ses repères pour arriver à quelque chose d'autre, et puis devant lui il y a ce faux sol, évidemment c'est le sublime, c'est-à-dire que si on avance c'est la chute,
il tombe,
c'est le sentiment de l'immensité, de l'infini du monde devant lequel je ne suis presque rien, mais c'est un nouveau rapport au monde, et c'est aussi cette idée que je vois quelque chose mais qu'en fait je vois, mais ce que je ne vois pas et que je ressens c'est ce qu'il y a en dessous, il y a le sol et il y a le sous-sol, c'est vraiment l'expérience du monde qui s'exprime là-dedans.
Et ça, c'est romantique par excellence.
Ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'emblème de la peinture, c'est un des grands emblèmes de la peinture romantique, et c'est vraiment l'emblème de ce rapport au paysage, cette figure comme ça de l'homme qui erre sans but et qui donc jouit d'autant plus du paysage, qui ne va pas d'un point à un autre.
Qu'il n'a rien à y faire, en fait.
Pas comme une valise, ouais. Comme on disait tout à l'heure. Et qui est dans la... Finalement, l'expérience, c'est celle de la perte, c'est celle de l'errance, c'est celle de la déambulation. C'est comme marcher dans Venise. On se perd à chaque fois, et ce qui est délicieux, c'est qu'on se perd. C'est la même chose.
Paumez-vous, chers auditeurs. Oui, Queenie.
Je l'ai mis dans les stories Instagram, hein, ce tableau, si vous voulez aller le voir.
Si vous voulez voir Friedrich, il est sur Instagram. Je pense que s'il savait qu'il finirait sur Instagram, il serait OK ou pas, le peintre?
Non,
c'est romantique ou pas, Instagram?
Non, il serait pas OK. Il aimait pas trop la science, il aimait pas trop la technologie, Friedrich.
Eh oui, Friedrich, vous êtes sur Instagram, mais c'est donc sur le compte de la radio
Nova.
On peut
lui faire du bien malgré lui.
Nova.
Un auditeur qui vient de nous envoyer un truc très précis.
C'est Cédric qui nous dit que devant lui, il a une vallée, un parc sur une rive, la N118 plus des arbres de l'autre, la ville dans le creux et au loin, la Défense.
Ouais, il vient vous donner tous les arrière-plans, second plan, premier plan. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Pierre Vatte?
Alors, on est embêté, c'est pour ça que c'est intéressant. Si j'étais un peintre anglais, si je m'appelais John Constable, qui est un grand peintre de paysages anglais, je répondrais à cet auditeur que le rôle du peintre du paysage n'est pas de faire rentrer une vallée remplie de ruines et d'habitants, oui. Mais que le rôle du peintre du paysage, c'est de faire quelque chose à partir de rien. Donc en fait, le travail du paysage, c'est un travail de choix, d'une certaine manière. C'est choisir, c'est le regard qui cadre, hein, c'est le regard qui choisit, c'est-à-dire de pas... Finalement, vous voyez, ça n'est jamais objectif, ça n'est pas tout ce que je vois, c'est quelque chose où je commence à choisir. On a vu que le regard, il permet de creuser dans la nuit. Le regard, il permet de faire le point. Le regard, il permet de découvrir qu'une chose qu'on voit tous les jours, elle devient intéressante. Et là, le regard, c'est de voir que dans une étendue gigantesque, peut-être qu'il y a un point qui est vraiment pour moi.
Vous choisiriez la N118?
Pourquoi pas?
Si vous étiez peintre de notre auditeur.
Je ne sais pas, je n'ai pas la même fenêtre que lui. Donc je ne sais pas, mais moi j'ai vécu longtemps comme ici. J'avais l'espèce de serpent comme ça, de deux couleurs, du périphérique la nuit, et j'aurais tout à fait pu prendre ça comme paysage. Puisque c'est un rapport singulier, c'est mon expérience, c'est ce que ça raconte de moi.
On a un champion qui s'appelle Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Je me souviens de votre voix à la fin de votre quiz. On avait dit, vous avez fait 13. On avait envoyé des vuvuzela. Il y avait des fans qui étaient venus. Hey, à quoi il ressemble, c'est un champion.
J'étais hyper ému, je me souviens.
Bon, Quentin, ce matin, vous êtes à ça de gagner ces fameux 300€ de bons d'achat chez notre fripier préféré, Tony La Fripe, qui fait du sportswear, qui a un compte Instagram qui nous a fait baver pendant tout le mois de janvier. Mais pour ça, il va falloir affronter un autre champion qui s'appelle Vincent, qui lui a fait 15 au quiz. Bonjour Vincent.
Redoutable. Bonjour Marie.
Ça
bonjour
va
bonjour Queenie, bonjour Pierre.
J'adore vos petits bonjours parce que vous êtes genre hyper stressé. Et du coup, vous avez peur de tout donner dans le bonjour et de ne pas y arriver après. Vincent, honneur à celui qui a fait 15, évidemment. Qu'est-ce que vous choisissez? J'ai un quiz qui commence par gants, un quiz qui commence par tri.
Tri ou free?
Tri comme trip, tricky, tatouage tribal.
Allez, gants.
On part sur gants comme gangrène ou gangrène purulente.
Non, okay.
Une autre gangrène. Vincent, à vous l'honneur. C'est comme d'hab, 45 secondes. C'est parti. Alors, c'est un mage.
Gandalf.
C'est un fleuve.
Le Gange.
C'est aussi connu que Martin Luther King.
Gandhi.
C'est un synonyme de weed.
Ganja.
Ok, chantez Gangnam Style.
Gangnam Style, not a chance.
C'est been spreading most of life, living in the
sun. Gangsta Paradise.
Complétez cette phrase. En avant, gain.
Gant.
Ok, c'est le verbe mettre un gant.
Ganté.
C'est le gant pour se laver.
Un gant de toilette.
C'est un mec qui fait des gants.
Un gantier.
C'est un mec qui est dans un gang.
Un gangster.
C'est un gang avec des postiches.
Le gang des postiches.
C'est un gang à Lyon.
Le gang des Lyonnais.
Oui, c'est un film avec des gangs.
Gangs of New York.
New York.
Ah bah ils sont 8 à répondre en même temps.
Gangs of New York.
Bon, Vincent, c'est ce qu'on appelle être fidèle à sa légende.
Un petit sans faute qui va bien.
Oh, un petit 14.
Un petit 14.
On reste cool. Là-dessus. Qui vient de dire oh la vache? C'est Quentin
qui est
pétrifié.
Moi, ouais,
Quentin, non, vous allez faire mieux, c'est possible.
Je suis désespéré. Ouais, c'est possible, c'est chaud.
Il vous reste donc le quiz tri comme trip, tricky ou tatouage tribal, ok?
Eh ben, allons-y.
Allez, Quentin, de la force, 45 secondes. Alors, c'est pas joyeux.
C'est Tristan.
C'est le mec d'Iseult.
Tristan.
Il y a moins de côtés que sur un carré.
Un triangle.
C'est pareil, ça fait ting.
Un triangle.
Oui, c'est le verbe faire un pull.
Un tricoter. Pardon.
Oui, c'est la fourchette de Poséidon.
Trident.
C'est un tableau avec trois tableaux.
Un triptyque. Hein.
C'est un bikini avec trois pièces.
Un trikini?
Oui, c'est un vélo avec trois roues.
Un tricycle.
C'est entre le commissariat et la prison.
Ah, le tribunal.
Ok, complétez ce titre de film. Very Bad.
Trip.
C'est trois vieilles à Belleville.
Les triplettes de Belleville.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières.
Ah, je... trio.
C'est un synonyme de bandaison.
Je sais pas.
Ah, de c'est bandaison. Horrible.
Ah là là.
C'est la cata.
Vous perdez sur une
trique.
C'est affreux.
J'avais fait 13 points.
Vous avez fait 13 points,
un
Quentin.
Un tout petit point de moins.
Bon, bah, bravo,
mais
Vincent.
C'était un sans c'était... faute quand même. Hein. Franchement, il faut
c'était,
saluer.
C'était quoi le dernier truc?
La trique.
Synonyme de bandaison.
Ah, la trique. Oh,
la bonne
trique
qui va bien à 9h du matin.
Vous avez l'air de voir pourtant ce que ça voulait dire.
Ou le matin à 6h. Ouais, non, mais voilà.
Peut-être un peu trop tôt pour parler. 6h
du jour et de la nuit.
Yes,
yes. Bravo, Vincent.
Vincent, vous en prie. Notre gang de supporters revenus d'Afrique du Sud, Coupe du Monde. Les vuvuzela pour vous, Vincent. Vous remportez donc 300 euros de bons d'achat. Ah, ouais. C'est quoi ce youpi? Plus fort, s'il vous plaît.
Youpi.
300 euros de bons d'achat chez Tony La Fripe. Voilà. Cool, vous nous enverrez des photos de vos vieux scots et de vos pantalons Prada?
Carrément, avec plaisir.
Bon, ça fait plaisir de rhabiller. Ça y est, un auditeur de rhabiller. Oh. On continue. Un nouveau cadeau en février. Je vous embrasse tous les deux très fort et je vous dis surtout bravo.
Bah bonne journée.
Parce que moi-même,
merci
j'aurais
beaucoup,
fait moins mes
journée.
Propres quiz. Salut les gars. Ciao.
À bientôt. Au revoir.
Pour que tu rêves encore, s'en va. Pour que tu rêves encore, envoie mille merci à notre invité. Vous étiez là tôt ce matin, vous avez vu le soleil se lever et vous avez peint plein de magnifiques paysages pour nos auditeurs. Pierre Vatt, merci. Puisqu'on a été passionné par ces paysages, on peut lire votre bouquin. avec plein de tableaux dedans et aussi des trucs passionnants que vous racontez. Ça s'appelle Pérégrination, c'est aux éditions Azan. Le sous-titre, c'est Paysages entre nature et histoire. Mmh. Et puis aussi, vous avez parlé de paysages hier soir, justement, à la Nuit des idées, qui a lieu partout dans le monde, et à l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et vous discutiez des paysages avec l'artiste Fabrice Hibert. Et c'est à retrouver en vidéo.
Absolument, comme toute la soirée, qui était une soirée absolument magnifique, où il y avait des invités, qui avaient des artistes, c'est très important, il y avait des musiciens,
il y avait
des historiens de l'art, il y avait Chassol,
il y avait Blandine Rinkel de Catastrophe.
Il y avait Blandine Rinkel qui a fait un magnifique concert avec son groupe en fin de soirée, dans ce lieu sublime qui est la bibliothèque de l'INHA, la salle Labrousse, c'est un endroit incroyable. Mm. Et c'était aussi une manière de montrer que l'histoire de l'art, c'est pas une discipline fermée sur elle-même, mais c'est une espèce de carrefour comme ça, disciplinaire.
En dialogue.
Et en dialogue entre les arts vivants et les gens qui s'en occupent.
Bah, vous avez bien vendu votre vidéo YouTube, hein. Faut ouvrir un compte YouTube,
Allons-y.
Merci beaucoup.
Nova, pour que tu rêves encore.